BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, on vous demande de travailler jusqu'à 64 ans, alors que vous n'aurez plus de job dans 2 ans à cause de ChatGPT-4. Mais moi, j'ai 3 bonnes nouvelles pour vous, c'est votre argent. Il y a plein de gens qui vont réfléchir, comment dire. Il y a plein de gens qui réfléchissent depuis 2 jours en se disant, mais est-ce que mon job est en danger? La réponse est oui. C'est votre week-end et c'est une émission vraiment exceptionnelle, exceptionnelle parce qu'on va vous donner toutes les clés sans exception pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine. Waouh! Quelle semaine quasiment épuisante, folle, passionnante, délirante, avec beaucoup d'événements évidemment sur l'économie qui ont un impact sur la finance et les placements. Au sommaire aujourd'hui, ben évidemment, il n'y avait pas d'autre choix. L'expression de la semaine, c'est crise bancaire. La question macro, c'est les banques centrales, que vont-elles faire? Vont-elles continuer à relever les taux d'intérêt? On a vu ce qui s'est passé avec la BCE cette semaine. Un chiffre, c'est 6%. L'inflation aux États-Unis, on va se poser la question de savoir pourquoi l'inflation baisse moins vite qu'on ne disait, en tout cas ici sur ce plateau, pour certains d'entre nous, dont moi, en début d'année. En deuxième partie de l'émission, bah, la bourse, hein, stop ou encore, on s'est pris quand même un petit pain avec la crise bancaire. Est-ce que la baisse va continuer ou est-ce que c'était simplement une correction? La question d'argent, est-ce que justement avec la crise bancaire, avec tout ce qui est en train de se passer, avec le ralentissement de l'économie, est-ce qu'il y a des secteurs qu'il faut privilégier? Est-ce qu'il y a des secteurs qu'il faut éviter? On va écouter les mots de la semaine de nos Jedi, le top 3 des gérants pour la semaine et les actions à acheter ou à vendre. Mais vous le savez maintenant, musique... Ah oui, elle me donne la pêche. Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Si vous voulez laver plus vert que vert, vous avez besoin de lui. Il est à l'écologie, ce qu'Homo était à la lessive. Alain Pitou, vous êtes senior advisor ESG. Je suis allé la chercher loin.
Ah oui, c'est là.
Homo, c'est-à-dire que je pense qu'il y a la moitié des gens qui écoutent.
Ah bah, ils savent même pas ce que c'est. Il y a que deux qui rient, en fait.
Ouais, il y a que les plus de. Bon, on va pas dire quel âge.
J'avais préparé des trucs sur la guerre du feu, mais tant pis.
Non, mais justement, parce que j'étais certain que vous m'attendiez au tournant là-dessus.
Tant pis, ça sera pour une autre fois.
Aucun doute, si je l'avais eu comme professeur d'économie, vous n'auriez pas à supporter mes convictions économiques fantaisistes. Anne-Sophie, vous êtes chef économiste de BDO France et professeur d'économie à la Sorbonne, et je regrette le fait que vous refusiez toujours de me donner des cours du soir.
Non, c'est faux, hein, mais vous êtes le bienvenu avec mes étudiants.
Ah, mais c'est sympa ça. Voilà. Bah, vous me donnerez les horaires.
Avec plaisir.
J'ai beaucoup à apprendre, vous m'avez dit ça la dernière fois. Ça, j'ai réfléchi depuis. Quand il s'agit... Alors, ça, je suis très fier de mon texte, Joseph.
Ok.
Quand il s'agit de gestion, pas facile de le mettre en échec. Bon, jusque-là, c'est facile. C'est ça, un cavalier des valeurs européennes qui déniche les rois de la côte.
Sympa.
José Béros, vous êtes gérant des fonds valeurs moyennes européennes à la financière de l'échiquier.
Bonjour Marc, merci.
Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu, je suis très content de vous voir.
Même aussi.
Bon alors lui, s'il était disponible, je l'inviterais à toutes les émissions, tant il nous éclaire dans le brouillard économique permanent. L'économiste qui murmure à l'oreille des dirigeants d'entreprises Denis Ferrand. C'est vos oreilles qui sifflent en ce moment.
Oui,
on
oui.
Parle pas mal de vous. Et...
On n'arrive plus à capter.
On n'arrive plus à capter. Non. Oui. Alors, je rappelle juste que vous êtes directeur général de Rexecode. C'est une période dingue ou c'est moi qui ai ce sentiment-là? Parce que moi, je me lève tous les matins et je me dis, mais tout ce qu'on vit est fou, quoi. Est-ce que vous, en tant qu'économiste, vous dites non? On exagère un peu, c'est des choses qu'on a déjà vues.
Oui, ben, exactement. En fait, c'est ce premier réflexe que l'on a. C'est quand on voit un événement aussi soudain, dont on pressentait qu'il allait arriver quelque chose, mais dont on ne savait pas où cela allait se passer. Ben, quand il y a ce type d'événement, on va tout de suite regarder qu'est-ce qui s'est passé par le passé. Comment est-ce qu'on a réagi? Quel dispositif est-ce que l'on met en place? Est-ce que ce que l'on dimensionne...
Là, vous faites référence à la crise bancaire.
À la crise bancaire, mais également...
Mais tous les événements, en fait, j'ai envie de dire, tout ce qui est en train de se passer, bon, même jusqu'à la réforme des retraites en France. Il se passe des événements tous les jours, il y a quand même une sorte de fébrilité permanente, quoi.
Oui, oui, c'est vrai que ça donne une inquiétude un peu sur une forme de pilotage, est-ce qu'il est vraiment au rendez-vous?
Et avec quand même des dimensions, Anne-Sophie, qui sont par exemple ChatGPT-4, je disais pour plaisanter, mais ça remet quand même en cause aussi les modèles économiques, non?
Ça crée de l'inquiétude et se dire aussi comment on va l'intégrer dans le modèle. En effet, parce qu'il y a des, vous l'avez dit au début, des métiers qui vont disparaître. On sait que ça va déjà être le cas avec la transition écologique. On se dit, il y a aussi ça qui est derrière nous. Donc
ça crée
beaucoup d'inquiétude. Et en plus, c'est très compliqué de faire de la prospective sur ce type d'innovation. Hein. Quand on essaie de prévoir les emplois de demain, c'est assez compliqué. Parce que même si on voit un peu les secteurs qui vont être concernés, c'est très, très compliqué de dire combien d'emplois sont menacés, combien il va falloir en créer, combien vont disparaître. Donc c'est sûr que ça crée de l'incertitude.
Est-ce que ça crée une difficulté dans la prospective? C'est-à-dire, est-ce que vous dites aujourd'hui, mon métier est quand même plus compliqué qu'il y a 10 ans?
Alors non, pas forcément, puisque en effet, comme l'a dit Denis, on est en économie, on a toujours l'impression qu'on vit une nouvelle crise. Alors que vous regardez depuis la Seconde Guerre mondiale, même avant, on ne vit que des crises tout le temps, que ce soit des crises économiques, géopolitiques, financières, commerciales.
Donc on a des références.
Oui, on a beaucoup de références, hein, qu'au XXe siècle, je crois qu'on a été bien servi. Ouais. Donc non, on en a, et c'est vrai que c'est là-dessus qu'on se base pour essayer d'anticiper. Là, la grande différence, c'est que c'est un peu comme au début du siècle. Enfin, on a des grandes transitions. Donc, on a vraiment la transition écologique où là, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas.
Le début du siècle, c'est quel siècle
La révolution industrielle, c'est quand ça. On a eu. Enfin, donc là, il y a des choses qui sont assez.
Oui, parce que là, on
ne connaît pas. C'est multidimensionnel. Même la démographie.
Bah oui, hein.
Là aussi, on a des projections de migration, mais c'est très compliqué de savoir. Et ce qui est assez particulier, c'est que c'est vrai qu'on a une succession. C'est-à-dire qu'on a les crises géopolitiques, les problèmes, crise commerciale.
Une accumulation. Parce que c'est même pas une succession, c'est qu'elle s'empile.
Ça s'empile. Et c'est vrai que très souvent, vous avez une grosse crise et puis de l'autre côté, ça va assez mieux. Là, c'est vrai qu'on doit faire face à beaucoup de crises successives et qui s'empilent.
Ça rend le métier plus difficile, plus compliqué qu'il y a quelques années.
Ça dépend vraiment de l'horizon que l'on veut se donner. Par exemple, là, sur cette question de ChatGPT, en fait, on se rend compte qu'on retrouve les mêmes problématiques que celles des mouvements ludites. Les mouvements ludites, c'était ceux qui, au 19e siècle, refusaient le développement des machines parce que les machines piquaient le travail. Et on voit sporadiquement surgir cette idée que le développement d'une nouvelle technologie va priver tout un ensemble de salariés de leur métier. En réalité, ce que l'on voit très bien avec Sauvy, les travaux d'Alfred Sauvy, ça a été de dire qu'il y a ce que l'on appelle le grand déversement. C'est-à-dire qu'on libère de la main-d'œuvre, on libère du pouvoir d'achat par l'utilisation de la machine, et ce faisant, eh bien, ce sont de nouveaux besoins à satisfaire et donc de nouveaux métiers qui apparaissent.
Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que je pense que c'est la seule révolution industrielle qui ne crée pas d'emploi. C'est-à-dire que c'est une révolution industrielle qui n'a que pour objectif le remplacement du travail humain. Et bon, nous, on est très en avance en France sur le dégagement du monde du travail, parce que on connaît, mais je veux dire, on est vraiment... J'ai l'impression qu'on va basculer d'une société de travail vers une société de loisirs.
Le métier à tisser, c'était la même chose. On le disait dans les mêmes termes. Et tout l'intérêt, justement, de la réflexion que l'on doit avoir, c'est justement quels sont les métiers qui vont, dans ce cas, accompagner ce qui va intervenir avec ChatGPT. On va travailler différemment. Je vois, par exemple...
On va moins travailler, c'est certain, à part dans les métiers de proximité, on va moins travailler.
Exactement, mais ce sont ces métiers de proximité,
qui
va falloir trouver. Ah, voilà, comment est-ce qu'on les valorise, c'est après la question de la qualité du travail qui va se poser. Mais je pense pas que ça soit une disparition du travail, c'est une reconfiguration du travail, mais comme on en connaît très régulièrement...
Mais vous pouvez pas dire ça, parce que regardez, le temps de travail, il diminue aujourd'hui, le rapport au travail, il est en train de changer dans la société, parce que vous parliez de démographie, vous parliez de digitalisation, vous parliez d'écologie, mais il y a aussi la révolution sociétale, on est en train de changer de mode de rapport au travail, on travaille moins.
Alors, et il se disait même qu'on aurait pu travailler jusqu'à 15 heures par semaine d'ici un siècle, et là il avait écrit en 1931.
Il faut faire aussi attention, parce que c'est dans nos pays occidentaux, c'est pas partout, on n'est pas dans une même situation.
Mais c'est des tendances, vraiment. C'est comme la démographie.
Mais c'est quand même une tendance d'utiliser justement le progrès technique pour en effet moins travailler et utiliser son temps à autre chose. Hein. On voit que depuis l'industrialisation, on tend vers ça. Après, ça pose deux questions, les problèmes des inégalités, parce qu'on va le dire, hein, c'est quand même un système où on crée énormément d'inégalités entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Donc là, il y a vraiment une vraie question de société.
Parce que la différence avec des machines qui ont remplacé les ouvriers, c'est que là, ça remplace des classes moyennes, voire supérieures. C'est-à-dire, on parle d'un ChatGPT, c'est à la place d'avocat. Avocat, c'est pas un ouvrier. C'est-à-dire que...
Donc, là, vous allez avoir...
Au contraire, on dit les métiers de proximité vont être revalorisés. Les Américains disent qu'on est dans une riche session, c'est-à-dire une récession qui touche plutôt les classes moyennes supérieures que les classes les plus basses.
Alors, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est vrai que jusque-là, dans la révolution industrielle, l'idée, c'était que plus vous créez de valeur ajoutée, plus c'est dans les professions intellectuelles, moins vous étiez substituable, entre guillemets.
C'est ça.
Et là, moins.
Ben voilà.
Ça veut dire que pour ce type d'emploi, il va falloir, encore une fois, développer d'autres compétences par rapport à ça, parce qu'il y aura toujours des limites. Mais c'est vrai que là, on voit que la révolution ne s'attaque pas aux personnes qui ont peu de qualifications, c'est vraiment à tout le monde. Et ça, c'est le grand changement.
Donc, en termes d'inégalité, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que ça va provoquer une revalorisation des bas salaires.
Si, parce qu'il y a quand même le problème toujours du revenu. Okay. Et que vous soyez dans l'industrie, dans les services, vous voyez que vous avez quand même des grandes différences. Et puis, plus vous avez un emploi où vous avez de la technologie, des données, etc., plus vous avez aussi des écarts de salaire qui se creusent. Donc, il y aura quand même toujours ce problème de revenu, à mon sens, qui va augmenter, y compris chez les cadres. Entre ceux, justement, qui seront pas du tout substituables et ceux qui le seront.
Bon, je vous explique, on n'a même pas commencé l'émission puisque j'ai même pas attaqué le premier thème. Allez, on démarre, mais c'est passionnant, on pourrait rester comme ça pendant une heure. Allez, la crise bancaire, évidemment. Eh oui, on se fait du mal. Hein. Silicon Valley Bank et maintenant Crédit Suisse. Quelqu'un peut nous expliquer ce qui se passe d'abord. José Béros, des gérants comme vous et comme Alain, vous avez des valeurs bancaires en portefeuille? Et sinon, pourquoi?
Non, alors nous, structurellement, sur la partie valeur moyenne, hein, on n'est pas du tout investi sur le secteur bancaire. Alors pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est que nous, on privilégie tout ce qui est société de qualité, croissance. Donc on n'est plus
le secteur
bancaire. Et puis en plus de ça,
sympa pour les banques.
Sur les petites et moyennes banques, en fait, ce sont des risques qui sont assez spécifiques.
Bah, on l'a vu, hein.
Par exemple, alors même sans parler de très grandes banques, mais quand on va regarder des banques en Espagne, par exemple, ou des banques italiennes, ou dans d'autres pays, ce sont des risques qui sont beaucoup trop importants à prendre sur certaines catégories de marché, sur certaines géographies, sur certaines gestions dans ces types de banques. Et nous, voilà, on est peu ou pas du tout, en tout cas, en ce qui concerne nos fonds investis sur le secteur bancaire.
Alors, j'aime pas les banques depuis très longtemps.
D'accord. Pourquoi?
J'étais salarié dans une banque, peut-être. Ouais. C'est peut-être une des raisons. Mais blague à part, le problème, c'est que...
C'était une blague, ça?
Oui, c'était une blague. Okay. Non, mais j'essaie de faire. Enfin, bon, ça marche pas tout le temps. Gros volume pour faire des petites marges. Donc, généralement, pas mal de prises de risques parce que, finalement, le bilan des banques est quand même assez important, donc ça c'est quand même un point énorme. Pour compenser, ils se diversifient sur des métiers où ils prennent quand même du risque, hein. Ils embourbent des portefeuilles obligataires, ils font du trading, ils font des métiers un peu annexes. Et puis ça rend les petites banques, effectivement, je suis d'accord, il y a souvent des risques spécifiques, et les grandes banques, on comprend rien au bilan. C'est-à-dire que vous questionnez des gérants professionnels qui font ce métier-là depuis 30 ans, vous leur dites, t'as compris le bilan de la banque machin, j'en fais pas parce que je comprends pas. Et puis le dernier point, ça donne le dernier point, c'est souvent des problèmes de gouvernance. Donc des problèmes ESG, et puis dernier point sur le côté ESG, ils comptent pas le scope 3 sur ce qu'ils font dans leurs investissements, pétrole et gaz et compagnie, donc
ça vous gêne
pas les banques, voilà.
Anne-Sophie, si vous deviez expliquer à vos élèves la crise bancaire en moins de 2 minutes, vous leur diriez quoi? Vous disent qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Je dirais crise de confiance, parce que c'est vrai qu'on l'a vu avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Hein. Ce qui est assez intéressant, et surtout dans ces logiques de fonds, de start-up, en fait, surtout aux États-Unis, ce sont des entreprises qui ont énormément, énormément de fonds. Et donc, ils ont beaucoup, beaucoup de financement. Et donc là, ils avaient massivement investi donc, dans cette banque qui se retrouvait avec énormément, énormément de liquidités. Et donc, ce qui se passe, donc, bien sûr, on peut dire et critiquer la gestion active-passive, dire que voilà, ils n'ont pas bien anticipé l'augmentation de l'inflation, etc. Mais surtout, on voit qu'il y a quand même un côté confiance, c'est-à-dire que tous ces gérants, même si c'est partie bien sûr de votre travail, s'appellent pour essayer d'être sur le bon coup, sur la bonne affaire, et vous voyez que dans des micro-marchés comme ça, qui sont les start-up à forte croissance, ça va excessivement vite et vous avez vraiment un côté boule de neige qui s'enflamme. On voit qu'au début, bon, il y avait problème de 2 milliards à trouver, recapitalisation, il y avait un plan, ça aurait pu tout à fait s'arrêter là. Donc on voit qu'on n'apprend pas des erreurs du passé, et c'est très marrant que ce milieu lui-même, hein, en essayant de diffuser cette panique,
en fait,
dont c'est la spécialité, continue avec les conséquences après que ça va, puisque après c'est plus du tout gérable. Et là, je trouve que c'est un très très bon exemple par rapport à cette banque américaine.
Alors c'est intéressant parce que quand je vous ai parlé de la crise bancaire, vous êtes allé directement sur Silicon Valley Bank et ses banques, et vous avez mis Crédit Suisse, vous le mettez à part parce que pour vous,
c'est un
autre sujet.
Oui, parce que déjà en termes de volume, Crédit Suisse est quand même beaucoup plus important. On est en Europe, on n'est pas aux États-Unis, donc c'est pas le même profil. Là, cette banque, bon, aux États-Unis, t'es quand même très spécialisée dans le numérique, dans un certain type de start-up, donc ce qui est moins le cas de Crédit Suisse. Donc, à mon sens, on ne peut pas faire de parallèle à la situation américaine avec la situation européenne.
La question que les gens se posent, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un danger sur leurs dépôts dans une banque européenne, Denis Ferrand?
Alors déjà pas concurrence de 100 000 euros puisqu'il y a une garantie sur les dépôts, ça c'est quand même le premier principe
de base.
C'est
pas très rassurant, ça.
Ouais. Non, mais en tout cas, mais c'est quand même...
Déjà, tout le monde n'a pas 100 000 euros sur son compte courant.
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas très rassurant sur l'état de banque, surtout qu'on sait que les fonds de défense ou les fonds de soutien n'ont pas d'argent dans leur caisse. Donc ils n'ont même pas de quoi couvrir les 100 000 euros.
En fait, tout dépend de la façon dont la banque s'est adaptée au changement de contexte fondamental. Ce qui ne s'est pas passé avec SVB, avec Silicon Valley Bank, c'est qu'elle ne s'est pas adaptée au fait que désormais il fallait rémunérer à nouveau les dépôts, parce que les marchés monétaires d'un seul coup ils rapportent beaucoup plus que ce que rapportait la mise sur un dépôt. Donc si vous avez une banque qui a oublié que le premier de ses métiers c'est de collecter des dépôts et ensuite de faire du prêt, et que donc pendant 15 ans la banque n'avait pas à se préoccuper des dépôts puisque la liquidité elle l'avait partout où elle voulait, donc elle a oublié une facette importante de son métier, et là les banques en fait sont ramenées à leur métier fondamental, collecter dans un premier temps, pour pouvoir ensuite reprêter. Mmh. Et ces dépôts, il faut que je les rémunère, et que je les rémunère d'autant plus que les conditions de marché ont évolué. Et d'une certaine manière, ce que l'on voit, c'est la lenteur avec laquelle se sont adaptées certaines organisations face à un changement de donne qui était quand même très rapide. La vitesse de remontée des taux a été extrêmement violente.
Elle est historique ou pas?
Elle est historique, oui. En tout cas, pour la partie courte, elle est historique. Et puis, quand même, ce désajustement actif-passif, quand on se retrouve avec une pente de courbe des taux qui est aussi importante.
Parce que la pente de courbe des taux.
La pente de courbe des taux, donc l'écart entre la rémunération sur des échéances assez courtes, mettons jusqu'à 2 ans, et des échéances plus longues. Il y a 100 points de base d'écart entre la rémunération sur le taux à 10 ans et le taux à 3 mois. 100 points de base en moins pour le 10 ans. Et donc, vous avez...
On parle d'une courbe de taux inversée.
On parle d'une courbe de taux inversée. Donc, vous avez des fonds qui se rendent compte que c'est quand même beaucoup plus intéressant d'aller se loger sur la partie courte. Et donc, ils sortent, vous avez des sorties de dépôt extrêmement importantes pour aller se placer sur des fonds monétaires qui sont très rémunérateurs. Et dans le même temps, vous constatez ces sorties de dépôt, vous, en tant que banquier. Ce que vous faites, c'est que vous devez apporter des liquidités. Et les liquidités, vous les avez uniquement placé dans des titres longs dont la valeur s'est décotée.
Juste pour réagir, ça en effet, mais c'est vrai que sur la courbe des taux, il y avait quand même une anticipation, c'est-à-dire que maintenant, les États-Unis ont commencé à augmenter les taux plus tôt qu'en Europe. C'était quand même su par le marché depuis très longtemps. Oui, là, la grande difficulté, quand on dit de confiance, c'est une banque qui, quand même, en 2 jours, a dû faire face à 40 milliards de dépôts retirés.
Oui. Donc, est-ce qu'on a un risque?
Est-ce qu'on est dans un risque systémique?
C'est ça la vraie question, en fait. Hein. Est-ce que, Silicon Valley Bank, mais aussi Crédit Suisse, mais aussi, on a vu quand même, parce que c'est intéressant, parce que ce que vous dites, oui, Anne-Sophie, vous disiez Silicon Valley Bank, on parle de Crédit Suisse, c'est des problèmes spécifiques, mais derrière, la BNP a perdu 12%, Société Générale aussi en capital. Est-ce qu'il y a un risque systémique?
Alors, moi, je pense que non. Hein. En effet, Europe, États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Même aux États-Unis, vous avez vu tout de suite, vous avez la réaction de la Réserve fédérale, vous avez les autorités de régulation qui se mettent derrière. Donc là, on a quand même appris 2008, il y a quand même des réactions qui sont rapides, très efficaces, et donc là, on n'est pas dans la même configuration. Et puis en Europe, en effet, on a quand même eu beaucoup de régulations après la crise de 2008 et de 2010. Donc c'est vrai que BNP, Société Générale, donc là, c'est un petit peu normal, et c'est toujours cet aspect de confiance.
Et pourquoi?
On dit, il y a un risque.
Pourquoi?
Alors forcément, parce que ce sont les plus grosses, donc c'est tout à fait normal que vous avez un risque.
Non, mais 12% de baisse sur une journée,
oui,
c'est quand même la panique.
Vous avez aussi des journées où ça augmente beaucoup plus. Donc
vous savez comment c'est
sur le marché. C'est brutal. Mais quand vous avez quand même un acteur, même si c'est une plus petite banque, etc., aux États-Unis, qui est dans cette situation, c'est normal que vous ayez des conséquences, parce qu'on a dit sur l'aspect, pas de risque systémique. Et encore une fois, s'il y a un vrai risque, aujourd'hui, on a des outils qui sont beaucoup plus efficaces qu'en 2008 pour pouvoir intervenir.
Par exemple,
avec la Banque Centrale Européenne, déjà qui est le régulateur et qui
a
accès à tout, et avec le fonds derrière.
Voilà, et ils connaissent aussi les positions.
Et ils connaissent les positions. Les stress tests,
je dirais que j'oublie aussi dans les thèmes qui font que j'aime pas trop les banques et qui font que tout le monde a peur des problèmes systémiques, c'est l'interconnexion. C'est-à-dire que demain il y a une compagnie automobile qui fait faillite au Japon, c'est embêtant pour les gens qui y bossent, mais on s'en fout un peu dans le reste du monde. Par contre, une banque américaine de la côte ouest, 18e banque ou 16e banque américaine, qui craque, ça peut stresser tout le monde parce que c'est interconnecté. Et comme il y a quand même un doute sur les positions, on a quand même ce stress. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est la rapidité de réaction des banques centrales, et en particulier sur ce cas-là, la banque américaine, qui a, avec la hausse des taux, on parlait des transitions, mais toutes ces transitions dont on parle arrivent à un moment où les taux montent, donc ça crée aussi un trouble dans le marché et dans l'économie. Et donc on a
même une des transitions.
Bien, c'est une des transitions. Ah oui, ça fait 30 ans qu'on l'était pas. Quand même. Donc il y a cette hausse des taux qui fait un doute sur la solvabilité de pas mal d'acteurs, parce que ça crée ça. Et après il y a la liquidité. Donc on injecte de la liquidité comme on fait sur First Republican Bank ou sur la Banque Suisse, au Crédit Suisse, pour les aider à passer le cap dans la période. Mais ce que je trouve qui change...
Pour faire face à ce qu'expliquait Anne-Sophie, c'est-à-dire tous ces retraits massifs dus à la perte de confiance.
Mais ce que je trouve qui est vraiment un truc qui est assez incroyable, dans quelques mois on verra si c'est vraiment aussi incroyable que ce que je pense, c'est la garantie des dépôts. C'est-à-dire qu'on change le modèle de la banque, c'est-à-dire qu'on va garantir les dépôts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prêtez de l'argent à la banque.
C'est fondamental.
Mais ça, je trouve que ça change.
C'est fondamental. C'est un changement total de paradigme.
Ça socialise tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il va faire l'État? Il va dire, je vous garantis les dépôts, mais il faut que vous ayez un actif passif, une gestion de l'actif passif qui soit comme je veux, ou bien vous n'êtes pas garanti. Donc je peux vous dire que le débat, il va être vite réglé, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'elles font les banques après, une fois qu'on a dit on les coince avec ça? Vous voyez, je trouve que déjà ça a fait une distorsion entre les banques européennes et les banques américaines, je trouve, parce que les banques européennes, on n'est pas encore à la garantie totale des dépôts. Donc il y a un truc qui arrive en ce moment, je trouve que c'est quand même assez un gros changement de business.
José, un petit mot. Oui, après, pour continuer sur le discours, en fait, moi, un des risques qu'on peut voir aussi, c'est-à-dire que ça va aussi certainement engendrer plus de régulation, plus de lois, plus de restrictions. Et tout ceci,
mais on a envie de dire tant mieux quand on voit ce qui s'est passé avec Silicon Valley Bank où personne n'a remarqué qu'ils faisaient n'importe quoi.
Tant mieux certainement pour le secteur bancaire ou en tout cas pour certains acteurs qui n'étaient pas mal régulés ou qui prenaient trop de risques, ça c'est certain. Mais par contre, ça va créer des resserrements en termes de crédit et donc c'est ça qui risque de gripper et de contracter et de créer un ralentissement économique par contre dans les 6-9 prochains mois.
C'est un bon sujet ce que souligne. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a deux écoles. Il y a les écoles qui disent, compte tenu du fait qu'on réinjecte de la liquidité pour aider les banques, ça va faire remonter l'inflation et favoriser l'économie. Et ceux qui disent que la crise bancaire va avoir au contraire un effet un peu déflationniste. Vous êtes dans quel camp, Denis ?
Oui, pas tellement. Enfin, la liquidité, il y a des travaux de la Fed qui montrent que les injections de liquidité ont en total peu d'impact sur l'inflation.
Même celle pour aider les banques actuellement.
Les banques. C'est parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que spontanément, une banque face à une crise de liquidité, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va essayer de faire de la rétention de liquidité. Et la question que l'on doit se poser, qu'on n'a pas encore évoquée, c'est la question de la répercussion économique.
C'est ça.
Est-ce que l'on va avoir un moment ou un autre un resserrement des conditions de crédit ?
Attention, il va y avoir des resserrements et donc ça aura un impact, vous pensez ?
Exactement, oui. En tout cas, c'est le risque. C'est le risque qui va se présenter. C'est pour ça qu'on a besoin d'une intervention qui soit massive pour préserver la liquidité à l'intérieur des banques. Parce que pourquoi cette crise de liquidité est arrivée ? C'est parce qu'on a depuis un an un assèchement complet de la liquidité dans le secteur de la tech. Il n'y a pas eu d'IPO, il n'y a pas eu d'introduction en bourse l'année dernière. Les obligations high yield à haut rendement aux États-Unis, c'était 75% en moins par rapport à 2021. Et qui est-ce qui déposait à la Silicon Valley ? C'était pas des épargnants lambda. Non, c'était les boîtes de la Silicon Valley. Et donc, elles commençaient elles-mêmes à se trouver à court de liquidité, c'est pour ça que une petite alerte qui se vient sur la SVB, eh bien je sors mes liquidités. Et c'est un phénomène normal, mais c'est parce que fondamentalement, il y a déjà eu un grippage du marché et il y a un retour sur l'économie réelle.
Il y a un truc qui est fou quand même, c'est que jamais les banques ont réalisé de tels résultats, en particulier européennes. Elles sont à un niveau historique et trois semaines après, on est obligé de les aider en ajoutant des liquidités. On a fait 300 milliards de liquidités supplémentaires sur le bilan de la Banque Centrale Américaine pour aider des banques qui sont avec un maximum de rentabilité. Ça veut quand même dire qu'il y a un truc dans le modèle qui est quand même assez spécial. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle qui est extrêmement fragile. Moi, je pense qu'il faut quand même faire attention avec ces investissements.
L'autre problème aussi, c'est que ça porte un petit peu... Bon, aux États-Unis, les gens avaient 6 plus dans le capital risque, mais là, c'est vrai que c'est un type d'actif où, en plus, en Europe, on dit que c'est très risqué, donc on va moins dessus. Là, ça renforce de dire, regardez, c'est un secteur très spéculatif, regardez, c'est cette banque-là qui a des difficultés. Oui, mais... Donc là aussi, pour la transition vers, on va dire, les liquidités productives et qui vont vraiment à l'économie de croissance, ça peut être aussi, alors aux États-Unis non, parce qu'il y a, bon, ils vont quand même continuer d'investir, mais globalement c'est pas un signal très positif, notamment là pour nous en Europe.
En fait, je pense que ce qui change aussi dans la faillite en tout cas de Silicon Valley Bank, c'est-à-dire que, alors sans excuser les erreurs qui ont été faites dans la gestion chez SVB, mais quand même il y a aussi un élément très important à garder en tête, c'est-à-dire que c'est la crise de confiance, et pour revenir à ce que vous disiez, c'est cette crise de confiance qui a provoqué la chute de SVB. Parce qu'on aurait pu, la banque aurait pu continuer comme ça pendant encore.
Alors, 2 milliards, ils avaient un rachat.
Mais c'est juste, en fait, ça a été quasiment auto-prédictif, en fait. C'est la crise de confiance qui a entraîné ces retraits massifs et donc qui a provoqué...
Ça, j'insiste vraiment là-dessus quand même, 40 milliards en deux jours. On peut faire toutes les régulations qu'on veut, c'est quand même très compliqué pour une banque de cette taille.
Et à l'origine de ça, ce que dit Denis est vrai, c'est-à-dire qu'il y a au-dessus de ça encore... Il y a l'explosion un peu de la bulle sur la tech, c'est-à-dire qu'elles arrivaient moins à lever d'argent, donc elles sont allées taper dans leurs réserves.
On paye aussi quelque part, alors si on devait monter encore un peu les excès de 2019, de 2020.
Là, il y avait
trop d'argent, trop de cash,
explosion de la
trop de levée de fonds.
Donc on est dans ça.
Exactement.
Très bien, c'était passionnant. On va se retrouver, on n'a même pas eu le temps de faire le troisième thème, on le fera en deuxième partie. On va se retrouver en deuxième partie. Donc pour reparler de l'inflation quand même, parce que l'inflation c'est un driver majeur sur les marchés, on va parler des marchés, on va parler des choix des gérants, on va se demander quel secteur il faut privilégier, quelles actions acheter. À tout à l'heure.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et comme dit notre ami Denis Ferrand, on est allé très loin en première partie, mais finalement pas si loin que ça, parce que les mutations technologiques dont on est en train de parler, toutes ces mutations dont parlait Anne-Sophie, toutes ces révolutions, ben on est en train de les vivre et elles ont un impact. Hein. Elles n'ont pas un impact dans 10 ans, elles ont un impact aujourd'hui, elles ont un impact demain, tout s'accélère. En deuxième partie de l'émission, donc on va parler des banques centrales, évidemment, et de l'inflation. On va se demander où va aller la bourse. Elle a pris quand même un petit pain depuis quelques jours. Quels sont les secteurs que les gérants nous conseillent de privilégier ou d'éviter, les mots de la semaine de notre Jedi, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. Allez, on passe tout de suite à la question de la semaine que j'aurais dû faire en première partie, mais on est parti trop loin. Oui, tu veux ou tu veux pas. Quel dilemme pour les banques centrales et pour la Fed en particulier. Soit elle remonte encore les taux comme l'a fait la Banque Centrale Européenne, soit elle marque une pause. Alors, avec une première question, Anne-Sophie Alzi, l'inflation déjà, pourquoi elle n'arrive pas à baisser plus rapidement que ça? On est quand même surpris, on a eu 6% d'inflation aux États-Unis. Bon, alors les gens ont vu le verre à moitié plein en se disant, bon, c'est pas mal, finalement, ça continue à baisser, mais ça baisse très peu.
Alors moi, je pense que ce qu'il y a un lien direct avec la croissance économique. On s'attendait à avoir un ralentissement de la croissance économique beaucoup plus forte. Et finalement, il y a du ralentissement, mais c'est beaucoup moins fort que prévu. Rappelez-vous, l'année dernière, on parlait du risque de récession aux États-Unis. Aujourd'hui, on n'est absolument pas du tout sur cette situation. Même en Europe, on en parlait, donc on n'est pas du tout dans ce cas-là. Et c'est vrai que quand vous avez une inflation aussi élevée, le fait d'avoir un fort ralentissement de la croissance, c'est ce qui est le plus efficace pour avoir un impact direct sur l'inflation. Alors bien sûr, ils ont commencé à augmenter les taux plus tôt que nous, avec en plus ce que Jérôme-Paul avait expliqué, je préfère mettre en cause la croissance, mais on lutte contre l'inflation, donc c'était quand même là aussi un message assez important. Et finalement, la croissance résiste, parce qu'on a ces politiques budgétaires, je l'ai dit depuis le début, qui font qu'on a toujours beaucoup...
Le fait que l'inflation, elle va continuer à résister ou elle,
alors, elle va normalement se décélérer. Hein, normalement, on devrait avoir un ralentissement de la hausse des prix. Pas une baisse des prix, mais un ralentissement de la hausse. Okay. Donc ça, c'est prévu cette année. Mais plus tard, pourquoi? Parce qu'on a quand même encore... Alors, Europe, États-Unis, toujours différent. Hein. Les États-Unis, on a toujours beaucoup de tensions sur le marché du travail. On le voit, on a toujours ces aides qui continuent d'irriguer l'économie. Donc on va rester dans cette situation quand même d'inflation assez élevée. Par contre, en Europe, c'est assez différent. Donc, bien sûr, la Banque centrale a augmenté les taux et va sûrement faire une pause. On n'a là aussi pas de situation de récession.
Vous voyez une pause, là ?
Oui, une pause, après.
Et aux
L'Allemagne, États-Unis. Alors, aux États-Unis, il peut y avoir peut-être encore une ou deux hausses d'ici la fin de l'année, mais je pense que ça va là encore beaucoup dépendre de la croissance économique et de ce qu'on va voir au deuxième trimestre.
Denis Ferrand, est-ce qu'on n'est pas trop pressé? C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit il faut tout de suite que l'économie ralentisse, l'inflation ralentisse, mais est-ce qu'en fait, par exemple, on n'est pas en train de se tromper à nouveau sur l'économie en disant, elle n'a pas ralenti comme prévu, donc finalement, tout va bien, mais en fait, peut-être qu'elle va ralentir plus fort que prévu dans 3 ou 6 mois, parce qu'il se passe quand même des trucs qui sont un petit peu inquiétant. J'osais parler tout à l'heure de l'impact de la crise bancaire, mais pas que ça.
C'est vrai qu'il y a une forme d'impatience. Probablement, on aurait voulu voir l'inflation ralentir beaucoup plus vite sous l'effet de la révision de la croissance. D'ailleurs, l'OCDE a sorti sa nouvelle prévision de croissance. Ils ont révisé de 1 point la croissance américaine en 2023.
Exactement.
Ils l'ont relevé de 1 point. Donc, on voit bien qu'il y a un changement de pied qui est quand même majeur. C'est très rare d'avoir des révisions de cette ampleur. Et en fait, sur l'inflation, on a oublié que ça met du temps pour changer de rythme, parce que fondamentalement l'inflation a changé de nature désormais. C'est plus l'inflation conjoncturelle du début, celle qui était liée aux pénuries, aux désajustements de l'offre et de la demande que l'on avait en sortie de Covid. C'est une inflation de second tour désormais. C'est une inflation qui passe désormais beaucoup plus par les revenus, salaires et marges. Et ça, c'est un changement qui est intervenu. Il y a eu un papier de Philip Lane, le chief economist de la BCE récemment, qui montrait l'importance de la revalorisation des marges au niveau de la zone euro quant à l'évolution de l'inflation. Donc vous avez les effets de second tour qui sont là. Ça va mettre du temps maintenant à ralentir. D'autant que l'inflation, elle s'est déportée. Elle n'est plus sur les biens maintenant. Ce qui fait l'inflation, c'est sur les services. Vous êtes à 7,2 d'inflation.
Et est-ce que ça ne serait pas la même chose sur la croissance? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas... On s'est trompé dans le timing. C'est-à-dire, on a voulu que ça ralentisse tout de suite avec une récession en 2023, mais est-ce que finalement on n'a pas une récession qui peut démarrer un peu plus tard dans...
Oui, qui peut démarrer un peu plus tard, mais qui viendra de toute façon. On aura de toute façon un ralentissement, parce que même s'il y a une réaction des revenus, elle est quand même plus faible que le prélèvement qui s'opère sur les prix, et en particulier en Europe. C'est un peu moins vrai aux États-Unis, où l'inflation c'est de la redistribution de revenus à l'intérieur de l'économie. Mais pas
Anne-Sophie, vous voyez la récession? Pas du tout.
Moi, je vois moins la récession, parce que même quand vous regardez les prévisions de l'OCDE ou du FMI pour 2024, les chiffres sont pas mauvais.
Enfin, ils sont plantés. Donc, en 2023, oui, ils ont relevé. Donc, ça veut, ils pourraient très bien relever de 2%.
Tout à fait. Mais même, déjà, quand vous calculez les acquis de croissance, vous n'êtes pas dans un phénomène de récession. Donc, ça, c'est quand même déjà la base. Et en Europe, hein, c'est quand même vraiment l'énergie et l'alimentaire. Vous voyez que l'énergie, on attend quand même à ce que ça se tasse à partir du 2 ou 3e trimestre parce qu'il devrait y avoir un ralentissement de la croissance.
C'est la
prix du pétrole. Donc, là, il y a une corrélation directe. Il y a une corrélation directe. Bon, l'alimentaire, moins, mais ça contribue moins à l'inflation. Donc, c'est vrai qu'en Europe, comme on est vraiment sur des inflations importées, avec une situation de guerre qui reste.
Ça ne se voit pas dans les chiffres, quoi.
Ça ne se voit pas dans les chiffres. C'est ça qui est assez intéressant. Quand on regarde les acquis, tout ce qui a été quand même injecté par les gouvernements depuis 3 ans, enfin, à un moment, on dit on est surendetté, etc., il faut quand même bien que ça ait des effets. C'est toujours ce que je dis. On ne peut pas être autant endetté et avoir aucun impact économique.
Donc, dans un premier temps,
on a massivement aidé les entreprises. Second temps, les ménages. Ben là, en effet, on ne décroche pas. Et tant mieux, parce que vu tout ce qu'on a investi, ce qu'on s'est endetté, il faut quand même que ça ait des résultats. Donc, décrochage, mais plus tardif. Mais
un petit mot donné.
Sur les banques centrales, justement, par rapport. Comme l'inflation a changé de nature, la Banque Centrale n'a pas d'autre choix que de continuer de jouer sur l'inflation. Et ce qui est très important...
Vous ne voyez pas de pause, vous ?
Donc là, le relèvement, enfin, je ne croyais pas une seconde que la BCE ferait en dessous de 50.
D'accord.
Et donc, elle était obligée de faire 50, mais en même temps, elle était obligée de dire je vais rassurer sur les liquidités. Pourquoi ? Parce qu'au mois de juin, vous avez 520 milliards à peu près de liquidités qui viendront disparaître des banques. Ben, la BCE, ce qui était très important hier, c'est qu'elle a dit... On va aménager ce qui se passe sur les TLTRO l'année prochaine. Donc, elle doit jouer à la fois sur la lutte contre l'inflation et sur la lutte contre la stabilité financière. C'est pas l'un ou l'autre, elle doit jouer sur les deux.
On parle inflation, on parle banque centrale, évidemment, on va parler tout de suite des marchés. Bon, ça s'est pris quand même une sacrée claque. Hein. Alors, on était à des niveaux qui étaient assez importants. Quand on regarde finalement sur l'année, Alain, on est avec un CAC qui est au-dessus de 8%, un DAX au-dessus de 7%, S&P qui reste positif, le Nasdaq qui est en hausse de plus de 10%, donc même pas mal.
Ça va
continuer, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Ou est-ce qu'on est, en fait, ma question elle est vraiment simple, est-ce qu'on est dans une correction dans un cycle baissier ou est-ce qu'on est dans un retour à la baisse ?
Dans un cycle haussier.
Dans un cycle haussier, pardon.
Moi, j'ai l'impression que c'est une correction dans un cycle haussier. Après, je rebondis sur ce que disait Anne-Sophie tout à l'heure. C'est il y a des périodes d'engouement, c'est-à-dire que là, tout monte, et puis des périodes où il y a une entreprise ou un secteur qui se fait massacrer. Donc, on va avoir, je pense que l'année 2023, ça va être comme ça. Avec, moi, je me souviens, j'étais venu à l'émission, on avait le mot de la semaine, c'était, moi, j'avais dit controverse parce que c'était les entreprises qui avaient un problème allaient se faire découper. Et c'est ce qui se passe en fait. Hein. C'est-à-dire
donc vous citez vous-même en fait.
Oui, je me cite moi-même. Parce que personne ne le fait, je suis obligé de le faire.
Ça, c'est vraiment le plus simple en fait.
Voilà, exactement.
Comme l'a dit très justement Alain Pitou dans l'émission. Bravo.
D'un mot que j'ai dit. Donc, moi, je pense qu'il faut éviter les pétrolières.
On assiste à un événement historique.
Dans les banques, bon, moi, je pense que les banques, c'est un secteur à ennui régulier.
Je crois qu'on a.
Donc, voilà. Les entreprises endettées. Ça, je pense que là, cette année, ça va être un thème à éviter absolument. Et les entreprises qui sont mal notées sur le plan de la gouvernance. Alors, je reviens un peu sur mon métier, mais c'est vrai que vous pouvez avoir des secteurs qui sont très bien, mais des entreprises qui ont des sujets de gouvernance pour une raison ou pour une autre. Et je pense que ces sociétés-là sont sous-performantes à moyen terme.
Je peux faire un coup en dessous de la ceinture.
Allez-y.
SVB, la notation.
Elle était moyenne,
non,
en fait.
Non, pas du tout. C'était une des meilleures notations au SVB.
Ah oui, bon, moi j'avais regardé sur. J'avais vu Sustain, il le mettait en moyen en fait.
Ouais, donc ça veut dire que ça marche pas très bien votre système de notation.
Les banques en général sont mal notées, monsieur. Donc vous pouvez être bon parmi les mauvais, ça vous donnera pas une perf. Voilà.
Pas mal. José, le marché, ça va plus haut ou qu'est-ce qu'on fait ? On fuit, on se dit voilà, on a pris 8% sur le CAC depuis le début de l'année, autant se partir.
On peut plus parler uniquement maintenant du marché, c'est-à-dire qu'on va essayer de le scinder en deux. On va dire qu'il y a il y a des thématiques, on le voit depuis maintenant plusieurs années et ça a été exagéré depuis 2 ans. Donc depuis 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Les taux d'intérêt ont monté très fortement et donc il y a eu une rotation sectorielle. On en a parlé ici assez souvent. Donc une rotation sectorielle avec les marchés qui ont privilégié tous les secteurs value, dont les assurances, les banques, les sociétés endettées, pas forcément les sociétés de la meilleure qualité possible d'ailleurs, le cycle, l'automobile, etc. Et puis, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, quasiment, toutes les sociétés de croissance, de qualité, donc les secteurs de la technologie, de la santé, de la pharma, etc., ont fortement baissé. Donc c'est ça en fait la décorrélation qu'il y a eu. Et aujourd'hui, moi je pense, on est en train de rentrer petit à petit dans un nouveau paradigme en fait. Le nouveau paradigme, c'est le nouveau paradigme qui est induit par la politique des banques centrales, ah oui, aussi bien au niveau de la Fed qu'au niveau de la BCE. Petit à petit, alors quand, est-ce que c'est dans les 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais on n'est pas loin du pivot en fait, hein, la thématique du pivot. Donc les banques centrales vont pivoter, ça c'est vraiment une conviction extrêmement forte.
La BCE a déjà pivoté.
Mmh. Ouais, exactement.
Avec la dernière hausse.
Oui, je pense que c'est peut-être, on est quasiment, alors les prévisions c'est plutôt juin ou juillet je crois, mais on y est, enfin on est vraiment dans ce pivot. Et puis les marchés, vous le savez très bien, anticipent déjà ce mouvement de pivot et donc de baisse des taux. Et qui dit baisse des taux dit un renversement total de ce que l'on a fait, de ce que l'on a constaté depuis 2 ans. C'est-à-dire que moi je suis persuadé aujourd'hui qu'il faut revenir absolument des sociétés visibles, résilientes, bien gérées, qui vont être capables aussi au passage de passer la crise, parce que crise il y aura. Alors est-ce qu'elle sera violente ou pas, ça va dépendre de pas mal de critères, mais il faut clairement à mon avis revenir sur ces sociétés de croissance, de qualité, bien gérées.
Ah, vous n'allez pas me dire qu'il faut revenir sur le luxe qui est déjà au plus haut?
Non, mais sur la tech.
Sur la tech, ouais. Sur la santé, sur la pharma. Donc il y a tout un tas de sociétés comme ça, ou même de secteurs, hein, si on parle de secteurs, qui ont été massacrés, en tout cas délaissés depuis pas mal d'années. Et le point qui est important
donc,
aussi,
tech,
je pense.
Pharma.
Tech, pharma, industriel aussi. Hein, ouais. Il y a tout un tas de sociétés industrielles qui ont été aussi délaissées depuis pas mal de trimestres. Et je pense que ce qui est aussi intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a retrouvé des niveaux de valorisation sur ces secteurs-là, dont d'accord, je viens de parler,
d'accord,
qui sont de nouveau intéressants.
Il y a des opportunités.
Je ne suis pas en train de dire que c'est ultra cheap, c'est pas non plus l'affaire du siècle, etc. Mais petit à petit, on retrouve des niveaux de valorisation et des opportunités. Vous le savez, on investit en Europe, dans tout un tas de pays, dans tout un tas de secteurs. On commence à revenir sur des niveaux de valorisation qui sont acceptables, qui sont raisonnables. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres secteurs value qui ont beaucoup monté depuis 2 ans et qui vont avoir à faire face quand même à un environnement économique beaucoup plus compliqué
dans les prochains mois. Parce que c'est pas toujours clair pour les gens, value, croissance, value, donnez-nous des exemples de secteurs value, redonnez.
L'automobile, les matériaux de construction, l'immobilier, la banque, l'assurance, donc tout ça, ce sont vraiment les secteurs value. Hein. Value, ça veut dire décoté. Value, c'est décoté, okay. Et en général, qui dit valeur décotée, dit des secteurs plutôt cycliques, matures, endettés, globalement.
D'accord.
A contrario, pardon. Les secteurs qualité, enfin la typologie de secteurs qualité croissance, là on retrouve certaines industries bien évidemment, et puis comme je disais tout à l'heure, le secteur de la high tech, le secteur
la high tech, je pense que ce qui est intéressant, et la crise a fait, enfin la crise qu'on a vécue sur ce segment là a nettoyé pas mal de boîtes, hein. C'est-à-dire qu'on avait des PE qui étaient aberrants.
C'est quoi les PE?
Des price earnings, c'est-à-dire des valorisations de l'entreprise qui étaient aberrants, c'est-à-dire qu'on anticipait une croissance effrénée, donc on était avec des niveaux de valorisation très élevés qui se sont complètement effondrés. Mais certaines entreprises, et je sais que Louis de Montalembert vient régulièrement, il vous parle de ses valeurs du cloud, et c'est typique de ce genre de valeurs, c'est-à-dire qu'elles ont continué à faire de la croissance, c'est-à-dire qu'elles continuaient à faire des 30-40% de croissance, et là aujourd'hui on va se retrouver avec des boîtes qui se payent plus si cher que ça. Et donc, mais ça a nettoyé des boîtes, hein, parce qu'il y a des boîtes qui ne vont pas avoir.
Il y a des boîtes qui vont aller au tapis.
Voilà, parce qu'elles peuvent plus
financer
ou des choses comme ça. Ouais, c'est le grand classique, mais c'est vrai que ce secteur-là, globalement, qui continue à faire de la croissance, c'est intéressant parce qu'il s'est complètement fait avec un de-rating, comme on dit, c'est-à-dire qu'on est passé de PE de 80 à des PE de 35, mais quand vous avez une croissance qui s'est maintenue à 30-35%, ça devient finalement pas si cher, quoi. Enfin, pas si cher. Mais je pense qu'avec le changement, là, de les taux qui. Alors, les taux qui ne baissent pas forcément tout de suite, mais la liquidité qui est revenue, parce que la Banque Centrale a dit, les banques centrales continuent à dire qu'elles vont injecter. La Banque Centrale Chinoise, la Banque Centrale Japonaise continuent d'injecter. Donc, c'est plutôt positif pour ce genre de secteur.
Denis, quel est le mot de la semaine pour vous?
Pour moi, c'est le mot muet. Et je vais faire, puisque Alain l'a déjà fait, je vais faire pareil, je vais me citer. C'était au mois d'octobre, j'avais dit qu'on était face à un crack muet. Et le crack muet, c'est le crack obligataire. C'est le fait que vous avez une perte de valeur des obligations parce que les taux montent, et bien la valeur de l'obligation diminue. Donc tant que vous portez cette obligation à son terme, c'est pas de problème. Quand vous êtes obligé de faire des ventes de détresse, ben d'un seul coup, vous êtes obligé de constater des pertes. Et d'un seul coup, ce qui était muet jusqu'à présent, ce que l'on ne voyait pas, qui passait sous le radar, ça devient extrêmement vocal, au point de faire quasiment toute une émission de C'est votre argent autour du sujet des banques, parce que c'est quand même fondamentalement le changement de valeur des obligations qui a fragilisé aussi très fortement le bilan de beaucoup de banques.
Mais c'est vrai, ce qui est assez dingue, c'est que c'est muet aussi parce que les gens ne comprennent pas très bien, en fait. Quand on dit, par exemple, une obligation, la plupart des gens qui ne sont pas des professionnels, ça pas de quoi on parle, quoi. Et après vous leur dites des emprunts, mais alors les emprunts, comment la valeur d'un emprunt peut baisser? L'idée que quand les taux montent, la valeur d'une obligation baisse, bon, bah, c'est pas facile à comprendre. Intuitif. Alors que quand on dit, bon, c'est très simple, on dit, ah, le CAC a perdu 3%, bah, là, tout le monde a compris.
On voit tout de suite.
Ouais. Exactement. Mm. José Béros.
Oui, moi c'est Peter Thiel, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, en fait. Peter Thiel, on n'a pas trop parlé en France. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même la personne qui, alors je ne dis pas responsable de la faillite de SVB, mais en tout cas, c'est un investisseur, enfin un financier nord-américain qui a eu énormément de succès dans tout un tas de sociétés, de start-up qu'il a revendues, et qui a lui-même en fait fait des déclarations publiques pour demander au fonds de private equity aux États-Unis, enfin au fonds de capital investissement pardon américain, de retirer leur argent de cette fameuse banque, de la Silicon Valley Bank. Et c'est ça, c'est lui quelque part qui a déclenché en fait cette crise de confiance, qui paraît fou, c'est-à-dire qu'en en un tweet aujourd'hui, on peut faire tomber une banque en l'espace de 24 ou 48 heures.
Et ce que disait Anthony, c'est-à-dire qu'ils sont victimes du système qu'ils ont eux-mêmes créé, c'est-à-dire la propagation de l'information par le smartphone, en fait, pour caricaturer un peu.
C'est ça qui est dingue.
Bah, finalement, ce côté communautaire, bah, quand vous avez une banque communautaire dont la communauté dit il faut se sauver, bah là, ça, oui, c'est très intéressant. Anne-Sophie ?
Donc ça, c'était mon mot de la semaine, pas de panique, hein, en disant que c'est exactement l'inverse qui se passe. Alors
vous
là,
dites
c'est
pas
vrai,
de panique, vous dites.
Il faudrait pas de panique, justement, c'est-à-dire que quand il y a ce genre de choses, et on l'a dit, hein, cette banque, s'il n'y avait pas eu ces textos, cette communication, elle aurait pu trouver ses 2 milliards et ça aurait été un non-sujet. Et bien, parce que les acteurs eux-mêmes créent cette panique, que c'est un petit milieu dans un secteur très spécifique où tout le monde se connaît, tout le monde veut avoir la dernière info, voilà, pour dire ça y est, j'ai un bon plan, je vais investir là, etc. Bah, ça a des conséquences qui sont quand même assez dramatiques. Et là, on le voit pour cette banque. Donc après, on peut porter l'opprobre sur la gestion actif-passif, l'anticipation des taux, etc. D'accord, mais enfin, quand même, encore une fois, très peu de banques peuvent survivre à un retraite de 40 milliards en deux jours. C'est très,
quand
très compliqué.
Quand vous dites pas de panique, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont inquiets, vous leur dites aussi pas de panique?
Exactement, parce qu'on l'a vu, hein, impact sur les bourses européennes, la Société Générale, BNP Paribas. Donc, on s'auto-alimente au lieu de dire tout de suite, bah voilà, c'était un problème de recapitalisation, il y aurait pu avoir un rachat, et c'est vraiment dans un secteur, en ayant même le discours de est-ce qu'il y a un risque sur le système européen, bah vous provoquez. Et donc c'est vrai que bon, c'est toutes les crises financières s'expliquent en partie comme cela, mais ça ne change pas malgré les décennies.
Alain, très rapidement, les pays émergents.
Vous allez vous reciter, non?
Non, pas cette fois-ci. Mettez-le de côté pour la prochaine fois. Donc, pays émergents, une très belle contribution à la croissance depuis 2012. Hein, c'est deux tiers de la croissance qui vient des pays émergents. Et malgré tout, c'est une décennie horrible. Je pense qu'ils ont fait le cumul de tous les problèmes possibles imaginables, sans parler de la transition écologique qui va les, transition climatique qui va les toucher de près. Donc, des risques de défaut, d'une augmentation des dettes, un système bancaire qui est fragilisé parce que quand on voit déjà dans les pays occidentaux, les difficultés qu'on a à soutenir le système bancaire, mais comment on fait dans certains pays émergents pour soutenir le système bancaire, c'est quasiment impossible.
Remonter du dollar
qui a vraiment massacré beaucoup de pays émergents, donc il y a plein de défauts. Après, moi, ce que je dis, c'est que j'ai l'impression qu'on est quand même plus très loin. Alors, c'est beaucoup plus loin que les techs, hein, mais on est plus très loin de niveau d'achat parce que c'est pricé. C'est-à-dire qu'en fait, la contre-performance boursière des pays émergents est telle qu'à un moment donné, quand
une allocation, vous pensez qu'aujourd'hui, il faudrait remettre du pays émergent?
Pas très loin, d'en remettre. Ouais. Alors après, il y a des problèmes ponctuels ESG partout dans ces pays-là, mais en termes de valorisation, pour des gens qui regardent pas trop ce genre de sujet, je pense qu'on est plus très loin de niveau d'achat.
Mais pour un champion de l'ESG, la gouvernance dans ces pays, elle est pas fabuleuse.
Mais enfin, encore une fois, il y a des bons et des mauvais.
Ouais, il y a beaucoup de mauvais, il y a pas beaucoup de bons. En gouvernance, vous êtes d'accord quand même?
Oui.
Allez, on passe tout de suite au top 3. Bon, c'est pas mal. Ça tient quand même. Hein. Vous avez tous des performances qui sont plutôt assez bonnes. Virginie Robert est passée en tête avec 21,3. Pierre Chang avec 19,5. Pascal Séville est en hausse de 11,8%. Alain, je vous donne votre portefeuille. Vous me dites ce qu'on fait. Vous avez du Infineon.
Je garde.
Vous avez du Saint-Gobain.
Je garde.
Vous avez du Fortinet qui a bien monté d'ailleurs. Vous avez du Eramet.
Oui.
Vous avez du Thermo Fisher Scientific.
Yes.
Vous avez du Adyen. Vous avez du Elevance Health. Vous avez du Onto Innovation. On garde tout ça.
On garde tout ça. La dernière fois, j'avais vendu 4 entreprises.
Donc... Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on achète ?
Alors, on achète une entreprise qui s'appelle Albemarle. C'est une entreprise qui est dans le secteur des produits chimiques de spécialité.
C'est une entreprise qui est cotée où ?
Aux États-Unis, okay. Qui fait une capitalisation de 25 milliards, c'est pas mal, qui a des mines de lithium et qui produit, au-delà du lithium, ils font plein d'autres choses, mais leur segment phare, c'est le lithium. Donc, ils ont des mines de lithium, ils produisent des carbonates et hydroxydes, qui leur permettent de faire des batteries de lithium. Donc, on voit bien ce qu'ils font. Ils sont sur un segment qui se développe énormément. Tout ce qui est mobilité va utiliser des batteries. Donc, ils ont fait une ou deux années là qui étaient assez exceptionnelles. Un des leaders du secteur, une bonne stratégie, une bonne allocation du capital, parce que ils réinvestissent énormément, donc ils ont compris que c'était des segments où il allait falloir énormément investir, donc ils ont de l'avance sur cette technologie de prendre des mines de lithium et de les gérer proprement, parce que c'est des métiers pas faciles, c'est comme Eramet, c'est des métiers qui sont quand même assez difficiles. Donc il y a toujours ce risque ESG, mais ils font mieux que les concurrents, avec des concurrents qui arrivent, parce que tout le monde entier fait des mines de lithium, on le voit dans le monde entier, c'est valable en Chine, c'est valable en Europe, mais il faut 3 à 5 ans pour être sur le marché, donc eux ont de l'avance sur ce thème là et sur le plan financier, un chiffre d'affaires attendu de 20% par an jusqu'en 2027,
de croissance.
Ouais, tout à fait.
Et non,
des résultats excellents et un cash flow qui est plutôt bien réinvesti, donc
pour qu'on achète,
voilà, pour au moyen long terme, c'est pas mal.
José, je vous donne votre portefeuille, vous me dites ce qu'on fait. On a du Neoen, on a du Cellnex, on a du Worldline, on a du Boiron, on a du Advanced Medical Solutions, on a du RWS, on a du Nexi, on a du OV, on a du Sartorius, pardon, on a du Montclair. C'était votre dernière recommandation. Qu'est-ce qu'on achète ?
Oui, alors on va vendre RWS et Cellnex et puis on va acheter. Ah,
d'accord, on vend RWS et Cellnex.
Okay. Et puis on va acheter donc une entreprise italienne de taille moyenne qui s'appelle Carel Industries.
Ok. Ouais.
Carel Industries, c'est une entreprise dans laquelle on a investi lors de l'introduction en bourse.
Il y a longtemps ?
Je crois que c'était en 2018, okay. à peu près 4 ans. C'est une entreprise familiale qui a ouvert son capital donc à l'occasion de l'introduction en bourse. La famille est toujours le principal actionnaire de cette société. Et ils sont spécialisés dans tout ce qui est solutions thermodynamiques pour des systèmes de climatisation, de réfrigération à destination de tout un tas de secteurs, notamment de la grande distribution ou des data centers qui nécessitent ce type de produit. Une entreprise extrêmement bien gérée, avec des niveaux de croissance, des rythmes de croissance annuels qui se situent entre 15 et 20% à peu près par an en organique.
C'est
pas rien. Ouais. Et avec des niveaux de marge aussi, de marge opérationnelle, qui sont autour de 20-21% à peu près depuis qu'on les connaît, et toujours en légère amélioration. En plus de ça, donc la société bénéficie de traînes de régulation, donc de nouvelles législations qui sont mises en place pour améliorer donc les économies d'énergie, alors aussi bien en Europe que sur le marché nord-américain. Alors ils sont encore très petits sur le marché américain, mais ça c'est le deuxième point, c'est-à-dire qu'ils sont en train petit à petit de pousser leur pion sur ce territoire via des acquisitions aujourd'hui. Et puis la troisième chose, c'est le M&A, donc les acquisitions sur lesquelles la société a les moyens de grandir beaucoup plus rapidement.
Ça fait partie de ces Europe, boîtes dont vous nous avez dit elles ont pas mal corrigé, elles deviennent à des prix d'achat intéressantes ou non? Ça, c'est une boîte qui a bien tenu en termes de valorisation.
Elle a plutôt bien tenu.
Donc ça ne fait pas partie de ces boîtes qui sont en contre-cycle.
Non, c'est une société qui a délivré de façon extraordinaire, même en 2022, dans un environnement qui était compliqué, mais qui n'a pas été impacté fortement par ce qu'on disait tout à l'heure, donc la rotation sectorielle.
Merci à tous. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai appris pas mal de choses. J'espère que vous aussi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera exceptionnelle. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir, nous réécouter en replay. Et on a fait une bande spéciale où il n'y a que les interventions d'Alain Pitou. Comme ça, il pourra se reciter la semaine prochaine ou les prochaines fois qu'il viendra. Vous pouvez voir tout ça sur les plateformes.